pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels.
Oui.
Macarons foudroyants.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon.
Ah, je savais bien que ça serait bon.
Bonjour à tous, moi c'est Néria et Mercé est à la technique.
Bienvenue dans une émission un peu spéciale de l'assiette gourmande.
Nous avions dans une émission passée parlé de la cuisine du futur et de la cuisine moléculaire.
Aujourd'hui, nous en apprendrons un peu plus sur la cuisine déjà oubliée, une cuisine du passé.
Mais dont l'influence persiste toujours dans notre gastronomie actuelle.
Vous vous demandez sans doute, mais de quoi parle-t-elle?
À quoi pensez-vous si vous entendez ces mots? Senatus populusque romanus.
À nos cours de latin.
Et le latin a été la langue officielle de la ville éternelle.
La Rome antique.
Voilà, et maintenant que l'intro est faite, place à un peu d'histoire. Nous essaierons de réaliser l'impossible.
Raconter l'histoire de Rome de façon succincte.
Allons-y.
D'après la légende, Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ par les frères Romulus et Rémus, enfants de Mars et de la prêtresse Rhea Silvia, et allaités par la louve.
Les dieux auraient décidé que Romulus serait roi. Suite à une dispute, il tue son frère puis lui dédie la ville.
Rome connaît trois régimes politiques successifs.
La monarchie, qui dure plus de 2 siècles et demi.
La république, qui, elle, se maintient près de 5 siècles.
Et enfin, le fameux Empire romain de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après J.C.
Elle est d'abord dominée par les Sabins, puis par les Étrusques.
À cette époque, la principale institution est mise en place, le Sénat.
Il est formé par les membres des premières familles romaines, les Gentes.
Et il restera en vigueur jusqu'à la fin de Rome.
Tout comme la division sociale entre patriciens,
citoyens de familles anciennes,
et les plébéiens, citoyens qui n'appartiennent pas au groupe privilégié dû à leur naissance.
Pendant la République, les consuls comme Jules César sont les chefs du pouvoir exécutif.
Plusieurs guerres civiles affaiblissent le régime.
Octave, fils adoptif de César, prend le pouvoir et Rome devient un empire.
Au IIe siècle, sa superficie est à son maximum.
Il va des rives du Maroc jusqu'au Moyen-Orient,
en passant par l'Angleterre et l'Égypte, ainsi que par la France et l'Espagne.
Mais à partir du IIIe siècle, l'Empire romain connaît des crises politiques et économiques.
Le christianisme se développe et devient la religion officielle de l'Empire.
En 395, l'Empire romain se divise en 2 empires différents.
L'Empire romain d'Occident à l'ouest et l'Empire romain d'Orient à l'est.
Les Germains occupent Rome en 476.
C'est la fin de l'Empire romain d'Occident et le début du Moyen-Âge.
Ouf, c'était dur.
Vous pouvez approfondir en cherchant sur internet, en utilisant des livres,
mais aussi en posant des questions à vos profs d'histoire et de latin. Vous venez d'écouter l'instrument le plus célèbre de l'Antiquité,
la lyre.
Mais maintenant, revenons à nos moutons, parlons gastronomie.
Un seul livre de recettes de l'Antiquité a survécu.
Celui de Marcus Gavius Apicius, appelé De Re Coquinaria.
La grande étendue de Rome autour du bassin méditerranéen crée une importante diversité dans le domaine de la cuisine.
Mais certains aliments s'imposent dans les recettes.
Comme l'huile, le miel, les épices, les vins et les vinaigres.
Le Romain se lève avec l'aube. Il prend alors le gentaculum, en général du pain accompagné de fromage, d'olives ou de fruits.
Quelques heures plus tard, il avale le prandium, c'est le déjeuner.
Il se contente approximativement de la même chose que le matin et mange rapidement pour continuer à travailler.
Le principal repas, le seul où on s'installe pour consommer des plats chauds, est le quena.
Tiens, tiens, même mot en espagnol. On le prend au sortir des termes allongés sur le triclinium.
Ce mot désigne le lit sur lequel on s'allonge pour la quena.
Et à la fois la pièce où il se trouve la salle à manger.
Il s'agit de l'équivalent de notre dîner, à une différence près.
Il commence plus tôt, car la lumière du soleil rythme la journée.
Bon, tout ça c'est intéressant.
Oui, mais il est temps de passer à notre première recette. notre première recette, nous vous proposons un rôti aux baies de myrte.
La viande est un luxe que le peuple ne goûtait que rarement, sauf à l'occasion des sacrifices.
En effet, seules les entrailles étaient appréciées par les dieux.
Et le peuple en profitait et mangeait le reste du gibier.
La viande n'était généralement pas d'excellente qualité.
C'est pour cela que le livre d'Apicius compte surtout des recettes de sauce qui masquent le goût de la viande.
Bon, la recette.
Broyez dans un mortier une cuillère très pleine de baies de myrte épinées et une bonne pincée de cumin.
Versez-les dans une petite casserole où vous aurez réuni une cuillerée de garum.
Le principal condiment utilisé à Rome est composé de chair ou de viscères de poisson, voire d'huîtres restées fermentées longtemps dans une forte quantité de sel.
4 cuillères d'huile, une pointe de couteau de miel et une cuillerée de vin doux, puis poivré.
Faites chauffer lentement. Après ébullition, ajoutez une petite cuillère de fécule que vous aurez délayée dans un peu d'eau et laissez épaissir sur feu très doux, sans cesser de remuer.
Cette sauce accompagne d'une manière originale une viande rôtie cuite à part. Bene sapiat.
C'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom? Tu as bien un nom tout de même.
Mon nom est Gladiateur.
Comment oses-tu me tourner le dos? Esclave! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes.
Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commandant au chef des armées du Nord. Général des Légions Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur, Marc Aurel. Père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre.
C'était un extrait du célèbre film Gladiator.
Avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix.
Avant de passer à notre deuxième recette,
nous vous proposons une interview de Monsieur Thur,
professeur de français et de latin au lycée.
Nous lui avons demandé de nous parler de la place qu'occupait la gastronomie à Rome.
Écoutons Monsieur Thur.
La nourriture a toujours eu beaucoup d'importance à Rome, si bien qu'on connaît cette expression « panem et circenses » du pain et des jeux du cirque. Un des soucis des consuls et plus tard des empereurs, ça a été d'approvisionner Rome en blé, afin que les Romains aient de quoi manger. Concernant ce thème, on voit une nette différence entre les couches les plus simples de la population qui se nourrissaient de galettes, de sortes de pain fait à partir de céréales qui étaient cultivées et qu'ils cuisaient dans leur cuisine. Et on a bien entendu, par influence des Grecs, l'image des banquets ou des kénas, des kénaé, c'est-à-dire de ces dîners pendant lesquels on va montrer sa richesse à travers les plats qui sont présentés. Donc on pourrait par exemple se référer au passage où l'affranchie Trimalcion dans le Satyricon de Pétron fait étalage de sa richesse à travers les plats, notamment ces plats qui paraissent être un aliment et qui en réalité contiennent ou sont farcis d'autres aliments. Allez voir si vous avez cette curiosité, l'adaptation du roman dans le cinéma de Fellini, qui en est un bon exemple.
Merci à Monsieur Thur,
qui connaît la culture romaine bien mieux que nous.
Pour notre deuxième recette, nous préparerons une patina.
C'est une espèce de flan que l'on peut faire aux asperges, aux épinards, aux abricots, aux pommes, etc.
Il faut préparer une patina de pyrrhus, c'est-à-dire de poire.
Le repas traditionnel romain commence par des œufs et finit par des fruits.
L'expression « ab ovo ad mala »
de l'œuf aux pommes
est devenue un proverbe pour dire de A à Z.
Les Romains étaient d'excellents jardiniers. Ils importaient de nombreux fruits grâce à leurs conquêtes.
En revanche, ils ne connaissaient pas les agrumes en dehors des cédra corses.
Assez parlé et place à la patina de poire.
Pelez 1 kg de poire bien mûre, faites-les cuire à couvert dans un verre de vin doux avec 3 à 4 cuillères de miel, une petite cuillère de garum et une grosse pincée de cumin pulvérisé.
Puis battez 6 œufs. Mélangez-les aux poires grossièrement écrasées et ajoutez éventuellement un peu de miel si cela ne vous paraît pas assez sucré. Donnez quelques tours de moulin à poivre et ajoutez une cuillère d'huile.
Enfournez dans un plat à gratin huilé pour environ 40 minutes à feu moyen. Bon appétit!
Rosa, rosa, rosam. Rosé, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosas. Rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin.
Il est malheureusement temps de se quitter.
Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur notre site web
www.radiolfb.net.
Laissez vos commentaires
et abonnez-vous. À l'année prochaine, nous vous laissons avec Stay par Justin Bieber et The Kid Laroi. Your touch.